Alors, si vous voulez, toujours dans cette perspective, j'ai mentionné hier avant-midi que nous sommes 14 ans après la fin du Concile et que le temps est venu de commencer à faire une évaluation de ces 15 dernières années et de nous demander si certains points ont besoin d'ajustement ou non. Et alors, je vais commencer aujourd'hui par une première réflexion qui nous concerne en tant qu'individus. Après ça, nous nous demanderons en tant que groupe et en tant qu'Église. Je considère, moi, que il est temps de ramener notre Skylab post-conciliaire et de ne pas courir le risque qui nous tombe dessus en morceaux. C'était normal, après Vatican II, de traverser une période d'expérience, une période laboratoire. C'était pas facile de prendre les décrets conciliaires et puis, du jour au lendemain, de trouver leur application pratique et juste. On n'avait pas été habitué dans l'Église à des grands ménages comme ça. Et on n'avait pas d'entraînement à faire des transitions dosées, progressives. Alors, c'est presque inévitable que nous ayons procédé rapidement. Et ça serait le contraire. Ce serait naïf de notre part, ce serait infantile, puéril de notre part de croire que, en si peu de temps, c'est vrai que 14 ans ou 15 ans, ça paraît long, mais dans l'histoire de l'Église, c'est peu. Ce serait puéril de croire que on a vraiment une symphonie achevée et que tout est en place et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, nous n'avons sûrement pas fait d'erreur et que toutes nos options étaient bien prises, puis qu'il n'y a pas de choses qu'on a mis de côté et que on doit regretter. Non, non. Ayons la simplicité et l'humilité de croire qu'il se peut qu'il y ait des ajustements à faire. Et alors, l'enseignement de cet avant-midi, je l'intitule « Les trois mirages de la vie intérieure ». Vous connaissez comme moi cet ouvrage classique du père dominicain Garrigou Lagrange, qu'on intitule « Les trois âges de la vie intérieure ». C'est un ouvrage de base, à mon avis un des meilleurs, qui nous éclaire et nous guide dans la croissance spirituelle. Et Garrigou Lagrange parle de les trois étapes de la voie purgative où on essaie de se débarrasser des obstacles, des péchés, des attachements aux choses de la terre. Il parle ensuite de la voie illuminative où on recherche la croissance des vertus, des dons du Saint-Esprit pour arriver à la voie unitive. Eh bien, m'inspirant de ce schéma du père Garrigou Lagrange, je vais parler des trois voies qui peuvent être des mirages pour nous. Et la première voie, je l'appelle la voie fugitive. Consciente ou non consciente, c'est la voie où il se peut que la prière et les activités spirituelles deviennent pour nous soit une évasion, soit une substitution, soit une compensation. Une évasion. Actuellement, avec la facilité que les gens ont de participer à des groupes de prière, à des sessions de prière, il y a un danger pour certaines personnes de se réfugier dans ces réunions de prière, dans ces congrès, dans ces sessions de prière, en s'évadant de la réalité douloureuse qu'ils ne peuvent affronter. Il y a des gens qui ont simplement placé ces sessions de prière, ces réunions-là, dans leur vie un peu comme autrefois, ils plaçaient des distractions sportives ou artistiques. Ils allaient voir une pièce de théâtre, puis ça leur faisait oublier leur malheur. Ils allaient à une joute de hockey, pendant ce temps-là, ils oubliaient leurs troubles. Ben, aujourd'hui, ça envoie une réunion de prière. C'est évidemment une bonne place à aller, j'en conviens. Mais ce que je déplore, et ce qu'il nous faut craindre, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là s'évadent de d'autres obligations qui les attendent. Et ils vivent un conflit de ménage, ils ne s'entendent pas avec leur mari, ils ont des conflits avec leurs jeunes, conflits de génération. Alors à ce moment-là, ils se disent, ben, en tout cas, ce soir, c'est ma veillée de prière, je ne pense plus, je m'en vais. Ou bien dans leur communauté religieuse, ils ont des problèmes d'ajustement avec l'autorité, avec leur compagne, avec le genre de vie qu'il y a dans la communauté. En tout cas, ce soir, j'y pense pas. C'est pas mon trouble. C'est ma réunion de prière, ma veillée de prière. Et il y en a même qui se disent, bien, une par semaine, c'est pas suffisant. J'aurai l'occasion d'aller ailleurs un deuxième soir, puis un troisième soir. Et ce n'est pas rare de rencontrer des gens qui ont un circuit de prière. Et quand on parle avec ces personnes-là, c'est comme s'il y avait deux mondes. Ce monde-là, de la prière, et l'autre monde qu'ils essaient d'annuler et d'éloigner. Alors là, il y a une sonnette d'alarme qu'il faut entendre. Se réfugier momentanément dans la prière, et j'emploie le mot « réfugier » là, c'est bien. Mais c'est de prendre cette option-là comme définitive, régulière, et en faire une séparation de la vie d'engagement de chrétiens et de chrétiennes. Là, ça peut devenir, et ça devient un problème. Dans la voie fugitive, on rencontre également ceux qui substituent l'un à l'autre. C'est-à-dire que ils en sont venus presque en principe à croire que par la prière, ils vont tout régler. Je suis d'accord, je sais, nous sommes d'accord également que c'est le Dieu de l'impossible. Et quand je parlerai de la prière cette semaine, j'insisterai et je témoignerai personnellement de ma foi dans la puissance de la prière en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. Mais il y a quand même des exigences et des directives que le Seigneur nous a données dans son message qui s'imposent et que nous devons remplir en plus de la prière. Je vois parfois des gens qui se trouvent dans des situations où il manque de dialogue. où il y a des conflits de personnalité, des structures déficientes, de mauvaises méthodes de travail en comité ou en équipe ou dans l'association. Et au lieu de s'arrêter puis se dire, ben, mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Puis on va nettoyer la situation, on va se parler à cœur ouvert, puis on va se dire nos griefs, puis on va essayer de discerner, puis on va essayer de faire des compromis puis d'en sortir. Tout de suite, vous avez quelqu'un qui vous dit, ben, mettons ça dans la prière. Et prions. Et alors, ces personnes-là croient que nécessairement la prière va nettoyer le litige en question. Non. La prière va les conditionner, leur esprit et leur cœur, à être meilleurs chrétiens et chrétiennes dans leur façon de dialoguer, dans leur façon de se pardonner, dans leur façon de se comprendre, de discerner, d'être sage, audacieux, d'accord. Mais si on doit décider si on s'en va à gauche puis à droite, il va falloir à un moment donné que quelqu'un dise les avantages et les inconvénients de la gauche, puis les inconvénients puis les avantages de la droite, et qu'on décide si on s'en va à gauche ou à droite. S'il y a deux personnes qui se tombent sur les nerfs, qui sont membres d'un comité de soutien ou d'un comité de direction ou d'un conseil de communauté ou d'un n'importe quel groupe qui doit prendre des décisions, il est clair et net qu'en priant, on va voir plus clair. On va être plus charitable. On va pouvoir prendre de meilleures décisions conformes au Seigneur. Mais il restera qu'à un moment donné, il faudra que quelqu'un, par amour et dans la prière, dise à quelqu'un d'autre, « Votre comportement nous agace. Votre argument, on ne peut pas l'accepter. » Votre façon d'animer la réunion nous indispose. Mais parce qu'on aura prié, on aura le courage de le dire avec amour, au nom du Seigneur, et comme le Seigneur le dirait à cette personne-là, donc pas pour l'écraser, pour la rejeter, la broyer, mais pour faire ce que le Seigneur nous dit, une monition fraternelle, mais il faudra avoir le courage de le faire, et non pas se retourner et dire, prions. Alors là, il y a une voix fugitive que l'on rencontre. Je me souviens, il y a, au cours du dernier mois, à deux reprises, d'avoir assisté à des comportements comme ça. À un moment donné, où quelqu'un a dit... On pourrait peut-être se demander, il s'agissait d'un groupe diocésain qui s'occupait du renouveau charismatique, et puis ce conseil diocésain s'était fait dire par plusieurs personnes, pourriez-vous nous donner des directives sur le rôle d'un groupe de soutien? Qu'est-ce que ça doit faire un groupe de soutien dans un groupe de prière? Alors, le conseil diocésain s'est trouvé à avoir ça à l'ordre du jour. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire, bien, oui, il faudrait peut-être demander s'il y en a qui ont déjà une petite constitution ou le fruit de leur expérience. Et immédiatement, d'autres ont dit, non. Il n'est pas dit dans la Bible qu'il faut faire des structures. Le Seigneur n'a jamais dit de structurer les groupes de soutien. Montrez-moi ça dans la Bible. Alors les autres ont dit, ben oui, mais quand même, le Seigneur n'a pas tout explicité, mais il ne s'oppose pas à ce qu'on échange des expériences. Et à un moment donné, ben la discussion a pris, puis de la discussion, on est passé à la dispute. Puis à un moment donné, à quelque chose qui n'était pas tellement charismatique, ou à une bonne chicane charismatique, si vous voulez. Et puis là, on était pris là. Alors, la même personne dit, voyez, ça prouve ma thèse, prions. Et puis, les gens ont prié jusqu'à la fin de la soirée. Ils sont partis. J'ai eu des téléphones de tous les côtés. Les uns qui disaient, ça n'a pas de sens. D'autres disaient, si on avait prié plus fort, on aurait réglé le problème, etc., etc. Alors, voyez, là, ça dénote quoi, ça? Ça dénote du bon cœur, des bons sentiments, de bonnes intentions, mais ça dénote un manque de formation, certaines confusions qu'il faut éviter. Alors, ne pas substituer la prière à des choses que, par ailleurs, le Seigneur nous a demandé de faire. Enfin, dans la voie fugitive, on peut trouver ceux qui font de la prière ou des activités spirituelles une compensation. Et c'est pas rare de voir des gens qui se lancent dans l'hyperactivité spirituelle, soit pour oublier le passé. Ils ont eu une vie plus ou moins édifiante, mais aujourd'hui, c'est réparé. Mais ils portent encore le poids, les mauvais souvenirs de leur vie, les péchés qu'ils ont faits. Et aujourd'hui, là, ils se lancent éperdument dans la vie spirituelle, dans les activités, un peu comme pour rattraper le temps puis oublier ce passé. Ou encore pour se pardonner des points de fixation. Disons que dans leur vie, 90% des choses sont en ordre. Mais il y a deux ou trois petits points de fixation. Ils sont encore trop attachés à leurs idées ou trop attachés aux biens matériels. Ils sont dépouillés de tout sauf d'une chose ou deux. Puis ils le sentent. Puis ils ne veulent pas s'arrêter à ça. C'est fatigue de prendre conscience de ce qui leur resterait, là, en fait, de « finishing touch ». Comme on dit en latin, de petits points là, à compléter. Alors, pour ne pas être obligé de faire les derniers pas qu'il leur reste, là, ils prient fort, puis ils sont ardents, puis ils sont consacrés là, à leur dévouement, puis tout ça. Et c'est fréquent, ça. Et ça explique une part des détournements de vocation actuelle. Un jour, quand j'aurai le temps, j'aimerais ça réfléchir sur la nouvelle équipe post-conciliaire, laïque, religieux, religieuse et prêtre. Autrefois, on discernait assez bien les vocations propres de chacune de ces trois catégories, ce que Dieu attend du laïc, du religieux, de la religieuse et du prêtre. On pouvait apercevoir les domaines communs aux trois ou à deux des trois. Est arrivé Vatican II avec ce décret sur l'apostolat des laïcs. Il y a eu deux documents sur les prêtres, un sur les religieux et religieuses, et on ne s'est vraiment pas donné la peine là, de prendre ça, de digérer ça, pour voir qu'il existe encore des distinctions entre les trois vocations et des complémentarités et des terrains communs. Alors, il y a un danger que les uns ou les autres, avec la bonne intention de mettre en vedette des points importants qui viennent de Vatican II, estompent des points essentiels qui existaient avant et qui ont été réaffirmés par Vatican II. Et à un moment donné, on se trouve dans des situations paradoxales comme celle-ci, des gens qui disent, ben, mon Dieu, je ne vois plus tellement la différence entre un bon laïc, actif, apôtre, et puis un religieux, puis une religieuse, puis un prêtre. Et ça commence. Et il y a des gens qui quittent le sacerdoce ou la vocation religieuse, de bonne foi, si je peux ainsi dire, je leur prête cette bonne foi, en disant, ben, mon Dieu, avec ce que ma vie religieuse représente aujourd'hui, depuis Vatican II, et avec ce que je vois que les laïcs font de bien et peuvent faire de bien dans le monde, je ne vois pas tellement qu'est-ce qui me retient dans ma communauté ou dans mon diocèse. Et puis, ils ne le voient pas, puis on n'est pas capable de leur expliquer souvent. Alors, il faudra un jour y voir. Parce que la vocation du religieux et du religieuse est encore plus importante et plus unique et plus spécifique qu'elle ne l'a jamais été. Puis celle du prêtre, la même chose. Puis celle du laïc, la même chose. Il n'y a pas de confusion entre les trois. Il y a des domaines communs. Il y a des domaines qui peuvent s'exercer par l'un ou par l'autre. Mais le spécifique des trois, il est là, dans les documents conciliaires. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on a aujourd'hui, par exemple, des laïcs qui ont tendance à vouloir, parce qu'ils sont dans les mouvements de renouveau spirituel, sont animateurs de groupes de prière ou animateurs de marriage encounter ou qui sont dans néo-catéchisme.